pendant que tu es dehors, quelle qualité a ce son dans la tête?
Je me fais la musique dans la tête, oui. Un peu distribué selon les timbres que j'ai utilisés pour faire le morceau. Donc, si je marche, la musique, elle est vraiment dans ma tête. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que si je mettais d'autres musiques par le biais d'un lecteur de MP3 ou n'importe quoi, je ne ferais pas mon travail. Mon travail, c'est d'être compositeur, donc d'imaginer plein de musiques, de penser à ces musiques tout le temps et de les rêver en permanence. Elles viennent en permanence. Pour moi, au jour le jour, j'ai tout le temps des musiques, tout le temps, tout le temps.
Et comment ça se mélange avec des sons de l'extérieur, toi? Tu as des bruits de la rue, tu as des moyens de les intégrer. Ça t'influence d'un côté le monde extérieur où tu peux rester tout près de ta musique?
C'est pas. Bien sûr, ça. Oui, je pense que ça influence. Après, que ça soit une influence absolument directe, pas forcément. Parce que. Souvent, par exemple, pour exercer sa mémoire, on a besoin de penser à d'autres choses, à des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet dont on doit se souvenir. Moi, je pense que souvent, pour créer la musique, j'ai besoin de m'imaginer autre chose, d'aller dans une autre direction, ce qui me permet d'être très juste à l'endroit que je voulais faire. Donc c'est, oui, peut-être j'entendrai un morceau de marteau piqueur et qui me donnera un tempo ou un moteur diesel mal réglé aussi. Il y a 10 jours, j'étais dans la rue à Riga, en Lettonie, et il y avait un chantier en cours, avec, je crois, 4 ouvriers en train de taper avec leur marteau. Et je me suis fait la réflexion que pour moi, ça, c'était le rythme que je préférais. C'est mon rythme préféré. Le rythme de plusieurs ouvriers qui tapent, chacun à leur rythme, sans aucune. Ils tapent pas du tout ensemble. Mais ça crée des structures rythmiques qui sont incroyables, incroyables. Pour moi, c'est les plus belles. Voilà. C'est un des rythmes que je préfère. Voilà. C'est des réflexions comme ça. Donc à me dire, à formuler cette réflexion, à la noter sur un carnet, parce que j'écris beaucoup de choses dans mon carnet, n'importe quoi. Je calcule, je mets la liste des courses, et puis je calcule combien j'ai dépensé la journée, et puis un petit poème tout pourri, et puis je sais pas quoi. Et puis aussi des idées comme ça. Eh bien. Peut-être qu'un jour je vais refeuilleter ça en me disant, ah ben voilà, je vais faire un morceau en essayant de reproduire ça musicalement, ce genre de pensée, quoi. Tiens, ça, c'est le rythme que je préfère. Les sons, à partir du moment où ils sont enregistrés ou choses comme ça, sont des vraies mémoires totales, j'ai l'impression. Et il y a aussi le son, la mémoire du son. C'est-à-dire que, oui, je pense que cette rythmique-là qui m'a tellement marqué et qui m'a fait penser pendant quelques minutes, je pense que je peux la retrouver, d'autant plus que c'était une mémoire référentielle, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu des ouvriers qui tapaient. Alors, et donc, voilà, c'était une vraie référence à un passé sonore.
Quand tu étais enfant, tu vois, disons peut-être un truc sonore qui te souvient de ton enfance, est-ce qu'il y a une différence de qualité? Est-ce qu'il y a un vieux son dans la mémoire de l'enfance?
Le son d'une boîte de bonbons vide que un clochard faisait résonner. Cling cling, cling cling, cling cling, cling cling, cling cling, cling cling. Sur la terrasse d'un bar à La Rochelle, et je devais avoir 7 ans, 8 ans, non plus, 10 ans. Cling cling, cling cling, cling cling. Et là encore, c'est une formule rythmique qui est très intéressante parce qu'on ne peut pas faire avec ça, avec une boîte comme ça. Tu sais, tu vois, comme la boîte est tordue, c'est forcément cling, clung, cling, clung. Tu peux pas faire cling, cling ou clung, clung. Pas possible. Et ça, Voilà, ça c'est des. Encore, c'est des structures rythmiques qui sont intéressantes. Très binaires, très intéressantes. Peut-être que j'ai une très forte. Je suis pas rythmicien, moi, je suis pas batteur, mais peut-être que j'ai une mémoire. J'aime bien les rythmes, j'aime bien l'arythmie et les rythmes.
Allons un peu dans le monde où il y a le silence autour de toi, où tu as peut-être ta musique, un morceau que tu es en train de travailler. Essaye de décrire les manipulations possibles. Tu vois, pour moi, c'est comme une langue, comme un vocabulaire de manipulation. Tu peux décrire un peu ce que tu peux faire.
Moi, j'ai pas une compétence technique musicale d'écriture très développée. Donc, je ne vais pas créer des combinaisons harmoniques très complexes. Ça, c'est pas possible. J'ai développé, en revanche, une forte capacité de faire des lignes monodiques, mélodiques. Ça, c'est vraiment le truc que je fais dans la tête. Je peux faire à la rigueur un contrepoint avec un son de basse. Ça peut venir dans mon esprit, hein, comme ça, facilement. Mais c'est pas beaucoup plus évolué que ça. C'est vrai que quand je travaille avec mon ordinateur, avec le piano, que je mets des lignes d'accord par rapport à ces mélodies-là, là je rentre plus dans des complexités, mais que mon cerveau uniquement n'est pas capable de réaliser. Il faut vraiment que j'ai les outils musicaux de type de l'écriture musicale actuelle, hein, pour pouvoir développer plus que ça. Mais quand même, il y a des impressions de timbre, il y a des impressions d'ensemble qui peuvent exister, ouais. Même dans une pensée comme ça, furtive, dans la rue, en faisant des choses, quoi. Donc je suis, oui, des fois, il m'arrive de penser à un morceau que j'ai fait en me disant, bah, tiens, j'aurais pu le décaler dans un autre, avec d'autres timbres. Bon, je l'ai joué avec une clavinette, mais j'aurais très bien pu le jouer avec de la mandoline ou un synthé à la Jean-Jacques Perret, Pouet Pouet, ou un machin comme ça, oui. Et j'ai eu la même chose avec The Final Countdown. Un jour, moi j'adore ce morceau, j'ai toujours adoré ce morceau par contre. Là, c'est un morceau que j'adore, mais je suis pas fan de Europe en tant que. Sur le plan stylistique, évidemment. Mais je suis fan de Piazzolla, le mec qui fait du tango. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, le Final Countdown aurait très bien pu être joué par Piazzolla, et ben je me suis amusé à le faire. Voilà. Bon, ça c'est plutôt comique comme situation.
Est-ce que ça existe l'original? Parce qu'on vient de parler de mémoire aussi, de prendre des petits morceaux du mémoire. Tu as des pensées à des. Tu vois, l'auteur original, est-ce que ça existe?
Donc j'ai été viré du conservatoire, j'avais l'âge de 13 ans. Je n'ai jamais développé une qualité d'instrumentiste capable de reproduire le même. Ça, jamais. Par contre, j'ai tout de suite été dans un discours musical. Je me suis tout de suite inscrit dans un discours musical, c'est-à-dire, en grande partie, à faire de l'improvisation, à jouer des trucs impossibles, à me dire que le do-it-yourself des punks, c'était ma voix, vraiment. Ça, c'est ma voix. Moi, je suis pas punk. Dans la musique que je fais, je suis très loin des punks, mais très proche, parce que les punks disaient rien à foutre, on fait de la musique. Voilà, on sait pas jouer, on s'en fout, on fait quand même. Donc, je fais tout ce développement parce que effectivement, moi, je peux faire un morceau en me disant ah oh, tiens, je vais faire un morceau comme tel souvenir que j'ai de tel morceau de tel groupe que j'ai entendu, blablabla, et je vais le refaire. Mais comme j'ai pas de technique, comme je sais pas faire, je vais forcément faire autre chose. Donc je deviens un créateur. Puisque ça, ce que je vais faire, Ça sera forcément différent puisque je suis incapable de faire la même chose. Et donc, ça, c'est un processus de création, me semble-t-il. Maintenant, je commence à faire des morceaux qui ils ont leur propre vie. Dans mon dernier disque, par exemple, j'ai fait un morceau. Il a déjà 4, 5 versions différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, c'est toujours le même morceau. Et c'est moi qui le fais différemment. Parce que il demande à exister autrement. Au départ, c'était une valse, un peu à la Pascal Comelade. Je sais pas si tu connais cet artiste du sud de la France. Magnifique, moi j'adore. Enfin, je suis un gros fan. Bon, donc voilà. L'univers de Comelade m'a amené à faire une valse parce qu'il avait fait beaucoup de valses et puis des sons comme ça un peu naïf, mélancolique et tout ça. Bon, voilà, c'était vraiment le morceau de départ. C'était ma référence. Puis d'ailleurs, quand on écoute le premier morceau, elle est tout à fait obvious, quoi. Elle est tout à fait claire, elle est là. C'est un morceau de Shazam qui sonne comme Lad. Ok. Et puis en fait, ce morceau-là, ben, pour un spectacle par exemple, il a fallu que je fasse un morceau, un autre morceau. Il fallu que je produise un morceau. Puis j'avais pas d'idée donc. Sur une boîte à rythme qui était en 4-4, donc pas du tout une valse, hein. J'ai plaqué les mêmes accords et puis fait évoluer la mélodie. C'est toujours la même mélodie, c'est toujours les mêmes accords, c'est toujours la même chanson. Mais c'est devenu une autre chanson, quoi. Ça, j'ai deux ou trois morceaux comme ça qui ont leur propre vie.
Tu travailles un peu aussi dans l'improvisation sur scène.
De toute façon, que ça soit pour improviser ou pour faire des choses déjà écrites, il y a un endroit où on doit se mettre, qui est un endroit spécial. Si on est mystique, on pense que c'est proche de Dieu, ou proche de, je ne sais quoi, d'une entité comme ça, supérieure ou autre, peut-être. Ça, c'est le mot. Moi, j'ai fait beaucoup de musique improvisée, beaucoup. Et il y a un moment où je suis comme dans une espèce de transe. C'est-à-dire que je ne suis plus vraiment. Je suis en parfait contrôle de ce que je fais, mais plus vraiment là, ailleurs, comme au-dessus. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'idée de transcendance et de Dieu et tout ça là-dedans, que les musiciens, quand ils se prennent un peu la tête, ils se disent, waouh, j'ai approché Dieu. C'est parce que il y a vraiment cette impression d'être au-dessus. Mais comme si on se regardait en train de le faire, quoi. Tu vois, c'est pas le au-dessus qui est au-dessus au sens symbolique du terme. C'est juste, bah, c'est que par-dessus, tu vois les choses qui s'organisent, quoi. Donc il y a ça. Mais j'ai la même sensation quand je chante mes chansons déjà écrites. C'est le même endroit, en fait. Enfin, j'ai besoin, pour bien chanter mes chansons déjà écrites, de me mettre pratiquement au même endroit. Alors j'ai une autre anecdote, c'est que j'ai beaucoup fait de musique improvisée avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Gadou, qui est un guitariste, un partenaire à moi, un ami très cher, quelqu'un que j'adore, qui est un très très bon musicien. Et on avait, enfin moi j'avais entendu à la radio parler d'une tribu, enfin d'un village en Amérique du Sud, je sais plus dans quel pays ou quoi que ce soit, où il y avait une coutume. C'est qu'il y avait des musiciens qui jouaient, et quand ces musiciens jouaient, on leur préparait un breuvage spécial. Ce breuvage spécial était fortement alcoolisé. Il était juste pour eux, pour les musiciens. Et ces musiciens jouaient tout un panel de morceaux, etc. Ils avaient un répertoire traditionnel, ou je ne sais quoi. Mais parmi ces morceaux-là qu'ils jouaient, il y en avait un qui voulait dire « J'ai soif, apportez-moi à boire ». Donc, les musiciens jouaient les morceaux, et si le bassiste avait soif, par exemple le bassiste, alors il engageait, il commençait à jouer le morceau, et les autres comprenaient, et jouaient avec lui. Et donc, les gens du village comprenaient parce qu'ils connaissaient le morceau, donc ils amenaient à boire aux musiciens. Mais tout ça était lié au fait que ces musiciens-là, dans cette tribu-là, enfin dans cet endroit-là, et peut-être que ça résonnera aux gens à qui tu feras écouter cette anecdote, et ils sauront dire ce que c'est. Ces musiciens-là travaillent à un endroit, ils disent que c'est un endroit de la transe où ils doivent être ivres, mais pas ivres-morts. Ivres, c'est-à-dire hors du quotidien, hors de leur réalité, hors, mais conscients et sur le fil du rasoir. Et c'est cet endroit-là où ils sont le meilleur.